Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. La récente amputation d'hommes accusés de vol par des djihadistes présumés du groupe État islamique au Grand Sahara dans le nord du Mali rappelle les horreurs de la mainmise de groupes liés à Al-Qaïda en 2012. S'est indignée hier la MINUSPA, la mission de l'ONU qui a offert son aide. Des hommes armés ont rassemblé, selon la MINUSMA, la foule le 2 mai lors du marché hebdomadaire de Tinama, près d'Ansongo, et lui ont présenté 3 hommes qualifiés de voleurs, auxquels ils ont coupé la main droite et le pied gauche, selon des sources locales. Au Mozambique, des rescapés blancs de l'attaque djihadiste de mars contre Palma dans le nord-est du pays ont été évacués d'un hôtel en priorité par rapport à de nombreux rescapés noirs, dénonce Amnesty International sur la base de témoignages. 2 chiens ont été même préférés à des rescapés noirs pour monter dans l'hélicoptère du groupe mercenaire sud-africain Dick Advisory Group, qui appuie l'armée mozambicaine dans la région, a affirmé hier l'ONG qui dénonce le racisme flagrant de l'opération. Lionel Dick, le patron du groupe, a dit à l'AFP, et je cite, « Ce n'est pas du tout exact. En République démocratique du Congo, combat entre groupes armés rivaux au sud Kivu, Abdourahman Diab nous donnera les détails. RDC toujours 4 milliards de dollars envolés à cause d'un homme d'affaires israélien, Marius Murunga, y reviendra avec Jean-Jacques Lumumba, membre de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ». Au Kenya, le gouvernement promet de faire appel de la décision de la Haute Cour du pays qui juge illégal le processus de révision de la constitution initiée par le président Uhuru Kenyatta visant à diluer la règle actuelle du vainqueur rafle tout qu'il considère comme étant à l'origine des conflits post-électoraux à répétition dans son pays où affiliation politique et identité communautaire sont profondément liées. Ce processus de révision est source de vives tensions dans la classe politique kényane ces derniers mois. Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un problème de communication en interne. Mais Israël a procédé à des tirs d'artillerie et à de nouvelles frappes aériennes vendredi contre les combattants palestiniens du territoire. Ces forces armées se massaient jeudi près de la bande de Gaza. Peu après minuit, des groupes armés palestiniens de Gaza ont tiré un nouveau barrage de roquettes vers le sud d'Israël. De plus, 3 roquettes ont été tirées hier soir du Liban vers Israël, mais sont tombées en Méditerranée selon l'armée. Depuis lundi, 109 Palestiniens, dont 29 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza et 580 blessés selon les autorités médicales palestiniennes. Et en Israël, 7 personnes, dont un enfant de 6 ans et 11 soldats, ont péri. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir dimanche une réunion virtuelle publique sur la crise. Le conflit est doublé d'une escalade entre Arabes, Israéliens et Juifs dans plusieurs villes mixtes d'Israël, un niveau de violence jamais atteint depuis des décennies, selon la police israélienne. Plus besoin de masques en intérieur et en extérieur pour les Américains vaccinés contre le Covid-19, un grand jour selon le président Joe Biden. Michel Joseph fera le point. Colonial Pipeline, l'opérateur de l'immense oléoduc américain paralysé par une cyberattaque le week-end dernier, a relancé jeudi soir l'ensemble de son système et recommencé la livraison de carburant. Mais la situation dans les stations-service ne s'améliore encore que lentement. La Russie a annoncé hier, coup sur coup, envoyer une équipe de cinéma pour tourner un film de fiction à bord de la Station spatiale internationale en octobre, avant de mettre un milliardaire japonais sur orbite en décembre. Le tableau femme assise près d'une fenêtre, Marie-Thérèse de Pablo Picasso, a été vendu jeudi 103,4 millions de dollars lors d'enchères organisées chez Christie's à New York. La suite de nos informations, violent combat dans le sud Kivu entre deux groupes armés rivaux. Résultat, des milliers de personnes déplacées depuis le début des affrontements mercredi. Le point avec Abdourahman Dia.
Ces affrontements se déroulent dans la zone de Bijombo, dans les hauts plateaux de la province, dominant le lac Tanganyika et la ville d'Uvira, frontalière avec le Burundi. Ils opposent des groupes Mai Mai et le porte-parole de l'armée dans la région, le capitaine Dieudonné Kasereka, a confirmé ces combats. Nous n'avons pas encore tous les détails sur ces derniers, mais la réalité est que ces groupes armés s'affrontent depuis bientôt un mois, provoquant les déplacements de population. On compte actuellement environ 5000 déplacés en provenance des hauts plateaux, a précisé le capitaine Kasereka. La radio onusienne Okapi a également rapporté ces violences, évoquant de violents combats entre deux milices. Malgré de nombreuses tentatives de stabilisation, les conflits sont récurrents depuis des années dans cette partie montagneuse du sud Kivu entre groupes armés issus de communautés locales.
Au moins 17 migrants sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation retrouvée jeudi au large de la Tunisie, a-t-on appris auprès de l'Organisation internationale pour les migrations. Précision de John Linden.
Selon les premiers éléments recueillis par l'OIM, l'embarcation serait partie mardi du port libyen de Zouara en direction de l'Europe. Les deux survivantes de nationalité nigérienne ont été secourues par les autorités tunisiennes, non loin d'une plateforme pétrolière au large de Sfax, ville portuaire dans le centre-est du pays où elles ont été hospitalisées. Au moins 17 migrants se seraient noyés, selon les deux survivantes, a indiqué sur Twitter la porte-parole de l'OIM. Les départs de migrants clandestins depuis la Tunisie ont atteint un pic inédit depuis 2011. Les Tunisiens ont constitué 15% des 12 600 migrants arrivés irrégulièrement en Italie depuis janvier, selon l'ONU, représentant ainsi la première nationalité des arrivants.
Les Américains vaccinés contre le COVID-19 n'ont plus besoin de porter de masque en intérieur et en extérieur, ont déclaré hier les autorités sanitaires. Le président Joe Biden a salué un grand jour dans la lutte contre la pandémie. Michel Joseph.
Si vous êtes pleinement vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque, a déclaré Joe Biden hier lors d'une brève allocution depuis les jardins de la Maison-Blanche. Il a ajouté que c'est une étape importante, un grand jour, appelant tous les Américains qui ne sont pas encore vaccinés à le faire sans tarder. Un peu plus tôt, Rochelle Walensky, directrice des centres de prévention et de lutte contre les maladies, avait annoncé que toute personne étant complètement vaccinée peut participer à des activités en intérieur et en extérieur, petite ou grande, sans porter de masque ni respecter la distanciation physique. Les CDC recommandent toutefois aux personnes vaccinées de continuer à porter un masque dans les avions, bus et trains, ainsi que dans les aéroports et les gares. Actuellement, environ 35% de la population américaine, soit plus de 117 millions de personnes, ont reçu soit les vaccins Johnson & Johnson, qui se font en une seule injection, ou bien ceux de Pfizer et Moderna, qui se font en deux doses.
Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La République démocratique du Congo a un nouveau sélectionneur. La Fédération congolaise de football a nommé l'Argentin Hector Cooper à la tête des Léopards. Il succède ainsi à Christian Nzengi, remercié après la non-qualification pour la CAN 2021. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Valdosimo Yamba.
La RDC tient finalement son sélectionneur, un choix qui a mis longtemps à se dessiner et ce n'est pas Roland Courbis comme récemment annoncé, mais plutôt Hector Cooper qui prend les commandes de la sélection congolaise de la RDC. L'Argentin de 66 ans, deux fois finaliste de la Ligue des Champions d'Europe avec le club espagnol de Valence, va ainsi conduire les Léopards de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde, dont la qualification pour Qatar 2022 demeure l'objectif principal de la République démocratique du Congo. Dans une courte vidéo, Hector Cooper s'est adressé aux nombreux Congolais annonçant ses nouvelles fonctions.
Salut, je suis Hector Cooper. Je suis le sélectionneur de la République démocratique du Congo. À bientôt.
L'Argentin va faire avec un staff déjà bien étoffé par la Fédération congolaise de football association. Kinshasa, Valdosimo Yamba, VOA Afrique.
Suite de notre série sur la présentation des équipes qui prennent part à la Basketball Africa League prévue au Rwanda du 16 au 30 mai prochain, Nous nous intéressons à trois clubs maghrébins et nous commençons par les Algériens de JSP, Nani Talani.
Le groupement sportif des pétroliers d'Algérie est un club centenaire. Créé en 1921, le JSP n'a formé son équipe de basketball qu'en 2008. Basé à Alger, le JSP faisait à l'origine partie du Mouloudia Club. Riche d'une grande expérience dans le domaine sportif, l'équipe, surnommée le Doyen, a su s'imposer année après année pour remporter tous les championnats de basketball algériens depuis 2010. Un palmarès retentissant puisque la formation est la plus titrée du pays dans la discipline. Les Algériens peuvent compter sur leur coach Mohamed Kridesh, avec qui ils dominent le championnat national, mais aussi et surtout sur Mohamed Sédik Touati, 34 ans, avec sa moyenne de 15 points et 9 rebonds par match cette saison. Il a été le principal artisan de leur qualification lors du match décisif à Yaoundé au Cameroun face à l'ex-police du Mali. Mohamed Sédik Touati avait alors réalisé un double-double avec 17 points et 17 rebonds.
La Tunisie, elle, est représentée par l'US Monastir Abdourahman Dia.
L'Union sportive de Monastir est un club tunisien fondé en 1959. L'équipe gravit régulièrement les échelons jusqu'au début des années 90 avec sa montée en division première où elle s'impose parmi l'élite. Le palmarès du club est impressionnant. Il collectionne les places d'honneur, troisième du championnat en 1990-91, quatrième en 1995-96, avant de remporter son premier titre en 1997-1998 sous la direction d'Adel Latli et Saber Hafsi. Il récidive en 1999-2000 et en 2004-2005. Il est par ailleurs finaliste de la Coupe de Tunisie consécutivement en 2014 et 2017, ce qui fait de Monastir l'un des fiefs du basketball national. L'US Monastir est conduit par son coach Soufiane Feljani et son capitaine Redouane Slimani.
Eux sont classés parmi les favoris de cette toute première édition de la balle. Michel Joseph nous dit qui sont les Égyptiens du Zamalek Sporting Club.
Fondé en 1911 et deuxième club le plus titré d'Égypte derrière Al-Ittihad, 25 titres nationaux remportés, le Zamalek Club basé au Caire se présente à cette première édition de la Basketball Africa League avec la casquette d'équipe redoutable. Mais s'il domine à l'échelle nationale, sa moisson continentale n'est pas aussi reluisante. Seulement un titre enlevé en 1992 où le club Tayrot a décroché la Coupe d'Afrique des clubs champions. Les Égyptiens ont une poisse, 4 finales perdues dans cette compétition, dont la dernière en 1998. Pour la balle, le champion national 2019 voudrait monter sur le Kraal pour mettre fin à près de 30 ans de disette en compétition continentale. Pour ce faire, le Zamalek devra d'abord se sortir du groupe C, des espoirs que les Égyptiens font reposer sur les épaules de l'ensemble des joueurs, mais surtout de l'expérimenté Amro Sherif, 30 ans, qui joue en équipe nationale depuis ses 18 ans.
Merci Michel.
Merci Yacouba.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, à partir de la semaine prochaine sur VOA Afrique. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres seront diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pourrez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, au moins un fidèle musulman et un policier ont été tués hier à Kinshasa dans des échauffourées entre deux camps de la communauté musulmane que les autorités ont tenté de mettre ensemble afin de fêter la fin du Ramadan. Les précisions de Eddie Isango.
La police confirme qu'un des sept éléments est décédé. Les deux factions de la communauté musulmane qui s'affrontent ont reconnu qu'un fidèle musulman a été tué par balle. Les autorités affirment avoir tenté d'y ramener la paix au sein de la communauté en les invitant à communier lors de cette fête, mais que la situation a dégénéré. Le secrétaire général de l'une des factions musulmanes, l'imam Douma Douara.
Malheureusement, à Tchoussefa, tout ne s'est pas bien passé parce qu'il y a deux ailes qui sont reconnues telles, quand même par les institutions, deux ailes qui se sont toujours opposées. Mais aujourd'hui, ça a dégénéré au point que la police a voulu intervenir. Malheureusement, on nous parle de pertes en vie humaine, donc il y a eu mort d'homme. Et le service parle d'un tué par balle réelle qui serait de la mosquée Zamzamou à Bandalunga et d'un policier aussi tué, des musulmans tués par une balle de la police.
Les deux ailes revendiquent la légalité mais dénoncent la main des politiques. Explication du secrétaire général de l'autre faction, Jean-Claude Saïd.
Donc c'est de la barbarie, de la sauvagerie, mais c'est aussi la conséquence de ce fait que l'État congolais a longtemps regardé avec moins de conséquences cette crise. L'État a semblé aussi la manipuler, tribaliser les gens. On va imposer quelqu'un qui n'a pas qualité parce que tout simplement il est de la même tribu, des mêmes origines que le président de la République. On va l'imposer par la force à la tête de cette communauté. Il y a des conseillers proches du chef de l'État qui sont dans cette affaire, dans cette machination. À chaque fois qu'il y a des décisions judiciaires qui sont tombées en deux faveurs de ces usurpateurs, M. Youssouf Dibondo, ils sont là pour interférer, ils interviennent pour dire non, voilà, ne faites pas ça, n'exécutez pas ça. La preuve, c'est qu'il y a tout un jugement qui a été rendu par les tribunaux des grandes instances de la Gombe qui avait débouté M. Youssouf Dibondo pour défaut de qualité, disant qu'il n'a jamais été membre effectif et par conséquent, il n'a pas la qualité. Et qu'on comprend finalement que c'est de la mauvaise foi des gens qui sont déterminés à plonger dans la communauté dans le chaos.
C'est pareil pour l'imam Douma Douara qui lui dénonce aussi une usurpation.
C'est une crise de 2018 qui était liée à un glissement de mandat d'un comité qui était là en place. On a porté l'affaire devant l'État congolais qui avait tranché cette affaire pour l'organisation d'une assemblée générale. Cette assemblée a été organisée. Malheureusement, il y a un groupe de gens qui se croient politiciens donc qui avaient découvert politique qui ont organisé en amont aussi leur assemblée générale non couverte par le ministère de la justice, non reconnue par le ministère de la justice, mais qui s'estiment avoir des entrées politiques et avoir peut-être la possibilité de bafouer toutes les lois qui régissent les confessions religieuses en République démocratique du Congo.
RDC toujours, le président Félix Tshisekedi a effectué mercredi une visite à Lubumbashi, la capitale de la riche province minière du Katanga. Cette visite intervient alors que le mouvement citoyen Le Congo n'est pas à vendre vient de publier une enquête affirmant que le pays pourrait être privé de près de 4 milliards de dollars suite à des contrats miniers et pétroliers douteux avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Marius Muhunga s'est entretenu avec Jean-Jacques Lumumba du réseau panafricain de la lutte contre la corruption et membre de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ».
Ce que nous attendons du chef de l'État et du gouvernement actuel, précisément, c'est de leur engagement à pouvoir mettre la lumière sur tous les contrats décriés et sur toutes les procédures qui ont été à notre humble avis biaisés depuis plusieurs années, afin de permettre à ce que ces contrats puissent aujourd'hui être révisités et que la justice puisse mettre son nez, parce que vous savez, Dan Gertler, que nous cessons de décrier il y a de cela plusieurs mois, fait l'objet de sanctions américaines et de plusieurs ouvertures de procès au niveau de plusieurs pays, mais malheureusement au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a pas encore un signal fort qui a été donné dans ce sens, afin que tout ce que nous décrions comme contrat opaque puisse être aujourd'hui remis sur la table et que les bénéfices et que les gains de ces minerais bénéficient réellement aujourd'hui au peuple congolais en termes d'école, en termes de route. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons fait ce rapport, pour essayer de démontrer ce que M. Gertler gagnait tous les jours et le manque à gagner que cela a en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux. Plus de 1000 km de route pouvaient être construites avec tout ce que M. Gertler a
Mais M. Gertler, c'est un homme d'affaires. Il est tout à fait normal qu'il fasse des bénéfices.
Il est normal qu'il fasse des bénéfices, mais il ne peut pas faire des bénéfices dans la plus grande opacité et au détriment du peuple congolais. C'est peut-être son nom qui revient aujourd'hui parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent ces dernières années. Et il y a un autre côté du rapport que les gens ne lisent pas. Nous fustigeons aussi le comportement des multinationales qui ont préféré, au lieu de faire bénéficier cet argent à la République, passer par un intermédiaire pour pouvoir le corrompre et bénéficier des services d'un individu au lieu de bénéficier des services d'un État. Un individu, aussi puissant soit-il, ne peut pas gagner plus que ce que ne gagne un État. Si le Congo est pauvre aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de perdre de l'argent pour pouvoir alimenter un individu. Donc nous sommes dans une situation où le peuple est lésé, mais il est de notre devoir aussi d'éclairer la lanterne de cette population pour permettre à ce que les gouvernants actuels prennent des décisions qui vont dans l'intérêt général et dans l'intérêt de tout le monde. Il appartient au chef de l'État en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de pouvoir s'enquérir de la situation. Nous pensons qu'il est déjà au courant de la situation, mais de pouvoir instruire son gouvernement afin que les actes concrets puissent être posés et que la justice intervienne dans cette situation.
Jean-Jacques Lumumba, du réseau panafricain de la lutte contre la corruption, est membre de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre ».
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM et bien évidemment VOA Afrique 24 heures sur 24.
Au Cameroun, les défenseurs des droits de l'homme s'élèvent contre la condamnation de deux transgenres à une peine de 5 ans de prison, notamment pour tentative d'homosexualité et outrage public aux mœurs. Les deux transgenres avaient été arrêtés pour avoir porté des vêtements pour femmes dans un restaurant. L'un de leurs avocats a annoncé son intention d'interjeter appel. De Yaoundé, reportage de Moki Edwin Kidzeka, récit de Jacques Aristide.
L'ONG Human Rights Watch dit déplorer cette condamnation. Il s'agit, selon elle, d'une peine de prison très sévère à prononcer par un tribunal camerounais. Les deux transgenres, Loïc Adjekam, connu au Cameroun sous le pseudonyme de Shakiro, et Roland Mouté, alias Patricia, sont emprisonnés depuis le 8 février dernier à Douala. D'après la police, ils étaient vêtus de manière typiquement féminine alors qu'ils étaient présents dans un restaurant. Les procureurs les ont accusés de tentative d'homosexualité, d'outrage public aux mœurs et de défaut de carte nationale d'identité. Ils ont plaidé non coupables pour ce qui est de l'accusation de tentative d'homosexualité. Maître Tamfou Richard est l'un des avocats de Shakiro et de Patricia. Pour lui, justice n'a pas été rendue à l'issue du procès.
Nous considérons la décision trop sévère à l'encontre de ces accusés car aucune preuve n'a été produite devant le tribunal pour condamner le client pour tentative d'homosexualité, indécence publique et non-possession des cartes d'identité. Notre prochaine action sera donc de déposer un recours devant la cour d'appel et nous espérons que devant cette cour d'appel, nous serons en mesure de nous assurer que justice soit rendue à ce niveau.
Après leur arrestation, les surnommés Shakiro et Patricia ont été emmenés à la prison centrale surpeuplée de Douala, où selon Human Rights Watch, elles ont déclaré avoir été battues et insultées par des gardiens et d'autres détenus. Pour les défenseurs des droits humains, une peine de 5 ans pour des femmes transgenres dans une prison pour hommes peut équivaloir à une condamnation à mort. Human Rights Watch demande aux autorités camerounaises de les remettre en liberté et d'annuler les charges immédiatement. Pour l'avocate Alice Nkom, le jugement témoigne de la persécution continue dont sont victimes les membres de la communauté homosexuelle au Cameroun. Elle est d'avis que la communauté internationale devrait intervenir pour forcer le Cameroun à respecter les droits de ses citoyens. L'avocate Nkom ajoute que la lutte va continuer.
Nous attendons d'obtenir une copie de la décision du tribunal pour connaître les motivations qui ont conduit à une telle issue. Nous avons 10 jours pour déposer un appel et le délai pour le faire expire le 21 mai. Le magistrat n'a expliqué aucune circonstance atténuante, ni les nombreuses violations des lois, ni la violation du principe général du droit, ni la jurisprudence de la Cour suprême.
Pour Human Rights Watch, Shakiro et Patricia sont les dernières victimes d'un système caractérisé par le mépris absolu du droit à une procédure régulière pour les personnes prises pour cible en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. L'ONG appelle le Cameroun à abroger ses lois anti-homosexualité et à cesser d'interférer dans la vie privée des Camerounais. Contacté par téléphone, René Emmanuel Sadi, porte-parole du ministère de la Communication et du gouvernement camerounais, s'est refusé à tout commentaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a demandé au Congrès $1 milliard pour lutter contre la violence faite aux femmes, y compris la violence domestique et les agressions sexuelles. Reportage de Mike Sullivan, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
De Washington à l'Asie du Sud, en passant par l'Europe, de plus en plus de voix s'élèvent pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Traumatisme trop longtemps passé sous silence. Aujourd'hui, des personnalités autrefois respectées du monde du showbiz ou du monde sportif, comme l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique des Jeux Olympiques, Larry Nassar, font face aux conséquences de leurs agressions sexuelles. Les victimes, elles, souffrent toujours de leur traumatisme, comme Jordyn Weber, qui a été médaillée d'or olympique en 2012.
Je suis en colère contre moi-même de ne pas avoir compris qu'il s'agissait d'agression. Et c'est quelque chose contre lequel je lutte encore aujourd'hui.
C'est une réaction classique d'après Patricia Kumbi, militante des droits des femmes qui a été agressée sexuellement en tant qu'étudiante.
I remember at the time feeling like, oh,
je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, oh, est-ce que ce qui m'est arrivé est un crime ou pas? Et je pense que c'est une réaction très courante chez beaucoup de victimes, car la violence contre les femmes est normalisée.
D'autres jeunes victimes sont trafiquées à des fins de prostitution ou de pornographie, parfois par des connaissances, de plus en plus par des gangs, comme l'explique le docteur Lois Lee de l'association Children of the Night, les enfants de la nuit.
Elles sont violées collectivement, elles sont battues et sont rendues dépendantes de la drogue. Elles sont enchaînées à des meubles, elles sont mises en cage.
Ces victimes sont aussi parfois forcées à participer à des crimes, des fusillades ou des vols. Les agresseurs peuvent avoir une emprise psychologique sur leurs victimes. C'est un lien de traumatisme, explique Alia Diwiz, survivante du trafic et qui aide d'autres survivants.
Imaginez ces relations qui commencent chez une fille de 12 ans, une fille de 13 ans et qui durent la majeure partie de leur vie. Juste avec des visages différents.
Une étude internationale indique que près de la moitié des jeunes victimes de la traite des êtres humains sont victimes de membres de leur famille. Brittany Dunn est la cofondatrice du Safe House Project.
Vous voyez tout simplement que le système ne marche pas quand ces enfants se retrouvent à nouveau avec le membre de leur famille coupable de ce trafic. Ces enfants se retrouvent parfois en famille d'accueil, elles s'enfuient et se retrouvent à la rue.
Qu'elles soient victimes de traite ou de violences domestiques, les survivantes ont besoin d'une aide globale, explique Malika McDonald, qui supervise des logements de transition pour les victimes à ICNA Relief, une organisation musulmane.
Souvent, ces femmes ont été gardées captives, n'ont pas d'économie et n'ont pas de compétences professionnelles.
Certaines femmes et adolescentes victimes de la traite sont poussées vers la prostitution ou la pornographie, où elles se heurtent à de multiples difficultés dans les refuges pour sans-abri.
C'est vraiment difficile quand vous avez une femme qui a peut-être quitté un mariage abusif, qui essaie d'améliorer sa vie pour elle-même, pour ses enfants, mais chaque jour elle est exposée à quelqu'un qui consomme activement des drogues ou de l'alcool, ou des personnes qui ont de graves problèmes de santé mentale.
Les aides dont ont besoin les femmes victimes de violences sexuelles sont multiples, qu'il s'agisse de logements à long terme, d'éducation ou de soutien affectif. C'est pourquoi un meilleur financement de la part du gouvernement ne résoudra pas tous les problèmes, mais sera d'une grande aide.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.